Lizzie présente Le pouvoir de la pensée flexible d'Adam Grant. Lu par Olivier Chauvel. À Cannes, Jeremy et Bill, mes trois plus vieux amis, ce que je ne remettrai jamais en question. Prologue. Après un vol mouvementé, 15 hommes avaient été largués dans le ciel du Montana. Ce n'étaient pas des adeptes de la chute libre, c'étaient des pompiers parachutistes, des combattants du feu, appartenant à un corps d'élite du service des eaux et forêts américains qu'on avait envoyé éteindre un incendie allumé par la foudre la veille. Dans quelques minutes, il tenterait désespérément d'échapper au brasier. Ces hommes se posèrent à proximité de Man Gulch par une fin d'après-midi torride en août 1949. L'incendie faisait rage de l'autre côté du ravin dans lequel coulait la rivière Missouri et ils commencèrent à descendre la pente qui y menait. Leur plan consistait à creuser une tranchée pour contenir le feu et le rediriger vers une zone où ils ne trouveraient guère à s'alimenter. Après avoir marché environ 700 mètres, Wagner Dodge, qui commandait le détachement, constata que les flammes avaient franchi le ravin et se dirigeaient droit vers eux. Elles étaient hautes de près d'un mètre. Bientôt, le feu aurait pris assez de vitesse pour parcourir la longueur de deux terrains de football en moins d'une minute. À 17h45, espérer contenir le feu n'était clairement plus d'actualité. Comprenant qu'il fallait renoncer à le combattre et fuir, Dodge ordonna à ses hommes de faire demi-tour et de remonter la pente. Ils devaient escalader un versant très raide et rocailleux, planté d'herbes qui leur arrivaient à hauteur de genoux. En 8 minutes, ils avaient couvert près de 500 mètres. Le sommet était à moins de 200 mètres. Ils seraient bientôt en sécurité, mais le feu avançait rapidement. Dodge fit alors quelque chose qui stupéfia son équipe. Plutôt que d'essayer de prendre l'incendie de vitesse, il s'arrêta net et se pencha en avant. Il sortit une boîte d'allumettes, en craqua quelques-unes et les jeta dans l'herbe. « Nous avons pensé qu'il était devenu dingue », a raconté plus tard l'un des pompiers parachutistes. « On avait l'incendie presque dans le dos et le chef en allumait un autre devant nous. Qu'est-ce qu'il foutait ?» Il s'est surpris à penser « Ce salaud de Dodge veut ma mort ». Sans surprise, le détachement ne suivit pas Dodge lorsqu'il fit signe en direction du foyer qu'il avait allumé et hurla « Par ici ! Venez par ici !» Ce que ces hommes ne comprirent pas, c'est que Dodge avait mis au point une stratégie de survie. Il avait allumé ce qu'on a ensuite appelé un feu de secours pour leur ménager une échappatoire. En brûlant l'herbe devant eux, il nettoyait la zone environnante du combustible dont l'incendie aurait pu se nourrir. Il mouilla ensuite son mouchoir avec de l'eau tirée de sa gourde, s'en couvrit la bouche, et pendant les 15 minutes suivantes, il demeura allongé sur la terre calcinée. Alors que le brasier grondait au-dessus de lui, il survécut grâce à l'oxygène présent au ras du sol. 12 parachutistes du feu périrent tragiquement. On découvrit ensuite une montre à gousset ayant appartenu à l'une des victimes. Les aiguilles fondues indiquaient 17h56. Comment expliquer que 3 hommes seulement survécurent ? Leurs conditions physiques pourraient entrer en ligne de compte. Les 2 autres survivants parvinrent à atteindre la crête avant le feu. Mais c'est à son agilité mentale que Dodge dut la vie. Lorsqu'on veut définir l'agilité mentale, on pense aussitôt en général à l'intelligence. Plus on est intelligent, plus on peut résoudre des problèmes complexes plus rapidement. L'intelligence se conçoit traditionnellement comme la faculté de penser et d'apprendre. Pourtant, dans un monde turbulent, d'autres compétences cognitives pourraient bien importer davantage. La capacité à repenser les choses et à désapprendre. Imaginez que vous veniez de terminer un questionnaire à choix multiples et que vous vous mettiez à douter d'une de vos réponses. Vous avez encore du temps. Faut-il vous fier à votre instinct premier ou la modifier ? Les 3/4 environ des étudiants sont convaincus que corriger leur réponse diminuera leur note. Kaplan, entreprise réputée spécialisée dans la préparation aux tests de compétences, conseillait jadis de faire preuve de la plus grande prudence avant de modifier une réponse. L'expérience indique que beaucoup d'étudiants qui modifient une réponse optent pour la mauvaise. Avec tout le respect dû à l'expérience, je m'en tiendrai néanmoins aux preuves. Un trio de psychologues a en effet passé en revue 33 examens et a établi que, dans la majorité des cas, de mauvaises réponses avaient été corrigées à bon escient. Le phénomène en cause est appelé biais de première impression ou biais d'ancrage. Pour en faire la démonstration, les psychologues ont compté les traces de gomme sur les tests de plus de 1500 étudiants de l'Illinois. Seul un quart des réponses modifiées l'ont été dans le mauvais sens, tandis que la moitié des modifications ont transformé des réponses erronées en bonnes réponses. Je l'ai moi-même observé dans mon propre cours année après année. Les traces de gomme sont étonnamment rares sur les copies d'examen final de mes étudiants. Mais ceux qui reviennent sur leur première réponse, plutôt que de s'y accrocher, améliorent leurs notes. Bien sûr, on peut penser que les secondes réponses ne sont pas par nature meilleures. Si elles le sont, c'est parce que les étudiants sont habituellement si réticents à se corriger qu'ils ne modifient leurs réponses que s'ils se sentent assez sûrs d'eux. Toutefois, de récentes études avancent une autre explication. Ce n'est pas tant le fait de modifier votre réponse qui améliore votre note que le fait de vous demander si vous devriez la modifier. Nous n'hésitons pas seulement à reconsidérer nos réponses. Nous hésitons à repenser les choses, tout simplement. Considérez cette expérience impliquant des centaines d'étudiants au premier cycle d'études supérieures, dont une partie, sélectionnée aléatoirement, a reçu un cours sur le biais de première impression. L'enseignant leur a expliqué l'intérêt qu'il pouvait y avoir à changer d'avis et leur a indiqué dans quelles circonstances cela s'avérait sensé. Lors des deux tests suivants, ils ne se sont pas montrés plus enclins à réviser leur copie. Une partie du problème tient à la paresse cognitive. Certains psychologues soulignent que nous sommes affligés d'indolence mentale. Nous préférons souvent nous en tenir confortablement à des conceptions familières plutôt que de se colter avec de nouvelles idées. Des forces plus profondes sont également à l'œuvre. Se remettre en question rend le monde plus imprévisible. Cela exige d'admettre que les faits peuvent avoir évolué, que ce qui était vrai hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Reconsidérer quelque chose en quoi nous croyons fortement peut représenter une menace pour notre identité, nous donner le sentiment que nous risquons de perdre une partie de nous-mêmes. Réviser nos jugements ne nous coûte pourtant pas toujours autant. Nous actualisons avec enthousiasme nos biens, nous renouvelons notre garde-robe dès qu'elle passe de mode et rénovons notre cuisine dès que son style n'est plus en vogue. En revanche, pour ce qui concerne nos connaissances et nos opinions, nous avons tendance à ne pas vouloir en démordre. Les psychologues parlent de saisie et de gel des avoirs. Nous préférons le confort des convictions à l'inconfort du doute, et nous laissons nos croyances se dessécher bien avant nos ossements. Nous nous moquons de ceux qui utilisent encore Windows 95, tout en nous accrochant à des opinions que nous avons forgées en 1995. Nous recherchons les points de vue qui nous réconfortent, plutôt que les idées qui nous obligent à réfléchir vraiment. Vous avez sans doute entendu dire que si l'on jette une grenouille dans l'eau bouillante, elle s'échappe immédiatement. Mais si on la plonge dans l'eau tiède et si on augmente progressivement la température, la grenouille meurt. La capacité de réévaluer la situation lui fait défaut et quand enfin elle perçoit la menace, il est déjà trop tard. J'ai récemment effectué des recherches sur cette histoire souvent reprise et j'ai découvert la faille. Elle est fausse. Plongée dans l'eau bouillante, la grenouille subit de graves brûlures. Elle peut alors, ou non, s'échapper de la casserole. Elle s'en sort mieux, en réalité, lorsqu'on veut la cuire à petit feu. Elle s'échappe dès que l'eau commence à être désagréablement chaude. Ce n'est donc pas la grenouille qui échoue à réévaluer la situation. C'est nous. Une fois qu'on entend raconter cette histoire et qu'on l'accepte pour vrai, on prend rarement la peine d'en questionner la véracité. Alors que l'incendie de Mann Gulch progressait rapidement dans leur direction, les parachutistes du feu durent prendre une décision. Dans un monde idéal, ils auraient eu le temps de ralentir pour analyser la situation et examiner les différentes options. Mais avec des flammes sur leurs talons, s'arrêter et réfléchir était hors de question.